Je vais vous parler aujourd'hui de la liberté à propos de ce que la Bible nous enseigne sur le sujet de la liberté. Le passage en Romains 6 que nous avons lu, ça fait des déclarations étonnantes. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché. Vous êtes devenu esclave de la justice. On parle de la libération. En France, peut-être, en termes de la révolution de 1749, et aussi de la libération de l'occupation en 1945. Brive-la-Gaillarde a un bilan particulièrement honorable dans cette libération, par la ville s'est libérée de l'occupant sans l'aide d'aucune aide extérieure armée. À l'autre côté de l'Atlantique, en 1941, dans un célèbre discours, le président américain Franklin Roosevelt énumérait 4 libertés. Les 2 premières étaient déjà bien reconnues, la liberté d'expression et la liberté de religion. Mais à celle-ci, on a ajouté 2 autres. Freedom from poverty, c'est la liberté de la pauvreté, et freedom from fear, la liberté de la peur. Que pensez-vous? Est-ce que l'humanité aujourd'hui connaît ses libertés? Les gens sont-ils vraiment libres? Que signifie pour nous le mot liberté? Parce qu'ici, dans Romains chapitre 6, Paul dit que vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas du tout libre. La semaine dernière, Billy nous a raconté l'histoire qui se trouve en Jean chapitre 8, là où Jésus parle de la liberté. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru, « Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre ?» Les chefs des Juifs étaient insultés par l'idée qu'ils n'étaient pas libres. « Nous sommes les fils d'Abraham, nous n'avons pas jamais été des esclaves. » Les gens d'aujourd'hui diraient peut-être quelque chose de pareil. Depuis la Révolution, nous sommes un peuple libre. Nous avons la Déclaration des droits de l'homme. Nous habitons une démocratie. Assurément, nous sommes libres. Eh bien, les Juifs avaient une mémoire assez courte, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais été des esclaves. Donc, qu'est-ce qui était votre rôle en Égypte? Ou bien, quand vous étiez à Babylone, entre 80 années. Vous étiez là peut-être comme des émigrants volontaires? Hein? Assurément, vous étiez dans l'esclavage. Et vous avez crié vers Dieu pour votre salut. Et Dieu vous a sauvé de cet esclavage. Mais maintenant, vous êtes des esclaves de péché. Vous avez rejeté la vérité, les paroles de Jésus-Christ, et la tragédie, c'est que vous ne reconnaissez pas que vous êtes des esclaves. C'est le même esclavage comme ceux qui disent aujourd'hui, je peux croire n'importe quoi, dire n'importe quoi, je suis libre. Non, il n'y a pas de liberté sans accepter la vérité de Jésus. La liberté, ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi. Une partie importante de la liberté est de pouvoir faire des choix. Mais cela ne signifie pas que je peux faire n'importe quel choix. Je ne peux choisir de voler comme un oiseau. Je ne peux pas choisir de respirer de l'eau comme un poisson. Je suis humain et je ne suis pas libre d'être autre chose. J'ai peut-être la liberté d'expression, mais cela ne signifie pas que j'ai la liberté d'entrer dans un théâtre ou un cinéma bondé et de crier « Feu !» Parce que ça mettrait les gens en danger dans la panique qui s'ensuivrait. La liberté humaine, c'est la liberté d'être humain dans le rôle pour lequel Dieu nous a créés. Dans la société, mes libertés sont limitées par la loi, n'est-ce pas? Je ne suis pas libre de conduire ma voiture à 200 km à l'heure. Si je veux vivre dans une société où les gens qui me volent sont punis, je dois accepter les mêmes normes de punition, la même restriction de liberté pour moi que je veux appliquer aux autres. Dans une société où chacun fait exactement ce qu'il désire, le résultat, ce n'est pas la liberté, c'est l'anarchie. Nous voyons les résultats d'une telle anarchie de nos jours, dans les médias sociaux, n'est-ce pas? Où tout le monde a le droit d'exprimer ses préjudices, même les haines. Il y a une image de ça dans la Bible. Si vous regardez dans le dernier verset du livre des Juges, les tout derniers mots duquel sont « Chacun faisait ce que lui semblait bien ». Je pensais que cela signifiait que les gens étaient parfaits en moralité et que chacun avait une conscience si sensible qu'il savait automatiquement ce qui était juste et il le faisait. Je n'y pense plus. Je pense que c'était une société où, si vous vouliez posséder la terre de vos voisins, si vous étiez assez fort, vous le preniez. Si vous vouliez la femme de votre voisin, et si vous étiez assez fort, vous la preniez. Si vous pensiez que vous pouviez adorer Baal alors que Dieu ne regardait pas, vous le feriez. Cela ne ressemble pas à une société ni libre ni bonne. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas la liberté. Revenons au chapitre 2 de la Genèse et au verset 15 et 16. Verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Dieu a fourni un environnement merveilleux pour vivre, pour nous. Il a fourni toute la nourriture et les ressources nécessaires. Et il a dit à Adam, « Sers-toi, c'est pour toi. » Dieu fournit un travail épanouissant à Adam pour nommer les animaux que Dieu a créés. Et Adam est complètement libre de les appeler comme il veut. Il n'a pas à soumettre une liste de noms à l'approbation de Dieu. Dieu lui donne la liberté totale de choisir. Dieu l'a offert encore la liberté de faire des vrais choix. C'est quelque chose d'unique à l'humanité, car Dieu a créé l'humanité dans son image. Un arbre ne peut pas choisir où il va pousser. Une vache ne peut pas choisir ce qu'elle aimerait manger. Nous, on a la capacité de choisir. C'est un don merveilleux de Dieu. En tant que parents, nous enseignons à nos enfants comment faire des choix. Nous commençons avec des petits choix, n'est-ce pas? Comme, veux-tu une pomme ou une banane? Nos enfants apprennent que les choix ont des conséquences. Si je choisis la pomme, mon frère, il va manger une banane. Plus de banane pour moi. C'est la nature de la choix. En vieillissant, les décisions deviennent plus importantes. Est-ce que je peux traverser la route en sécurité? Devrais-je étudier l'art ou les mathématiques à l'université? Est-ce que je veux marier avec cette personne? Toutes ces libertés de choix sont les dons de Dieu et sont destinées à conduire à faire le choix le plus important. Est-ce que je veux obéir à Dieu? C'est le choix qu'Adam fait dans Genèse chapitre 3. Tragiquement, il choisit mal. Il choisit de ne pas faire confiance à Dieu. Il choisit de désobéir et d'avoir mal choisi. Il n'est pas capable, il n'est plus capable, et nous ne sommes pas capables de défaire les mauvais choix que nous avons faits. Cette liberté critique a été perdue, et il semble dans la jeunesse qu'elle a été perdue pour toujours. Dans Romains chapitre 6, Paul dit que nous sommes maintenant devenus des esclaves de cette tendance à choisir le mal. Et nous pouvons le faire dans notre vie quotidienne. Avec quelle facilité nous nous plaçons au centre? Avec quelle facilité nous désobéissons les commandements de Dieu? Avec quelle facilité nous plaçons nos propres besoins et désirs tout en haut de la liste des choses qui pour nous sont les plus importantes. Mais Dieu a un plan pour arranger les choses et nous rétablir dans la liberté que nous avions abandonnée. Dans la lettre qu'il a écrite aux églises de la Galatie, Paul le précise. Les Galates avaient fait une grave erreur. Bien qu'ils aient voulu suivre Jésus, ils voulaient aussi ajouter beaucoup plus de règlements. Ces règlements, non seulement restreignant leur mode de vie, mais montraient également qu'ils ne croyaient pas que Jésus-Christ seul pouvait les sauver. C'était toujours Jésus plus. Jésus plus la loi, Jésus plus les règlements, Jésus plus les traditions. Paul dit en chapitre 5 de Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, encore une fois, ici Paul dit que vous ne faites pas confiance à Jésus, aux Galates. Si vous ne faites pas confiance en Jésus, vous restez comme esclave. Qu'est-ce que ça signifie d'être un esclave? Un esclave n'a pas de liberté. L'esclave n'est pas en mesure de décider où il va vivre, ce qu'il va faire, qui seront ses amis, où il va travailler, quel genre de travail il va faire, avec qui il se mariera, ce qui va arriver à ses enfants. Il n'a pas ses libertés. L'esclave est en fait la propriété de quelqu'un d'autre. Et cette autre personne prend toutes les décisions. L'esclave ne peut rien choisir. Il est triste de constater que de nombreuses personnes vivent encore dans les conditions de l'esclavage, où elles ne peuvent pas faire des choix. Pendant plusieurs centaines d'années, les autorités et les gouvernements nous ont dit qu'un peu plus d'éducation, juste un peu plus de développement économique, juste un peu plus d'humanité entraînerait la disparition de l'esclavage. Mais nous pouvons voir que ces choses n'ont pas fonctionné. La libération des gens de l'esclavage est l'un des thèmes clés également de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bien que les premières promesses aient été faites à Abraham, l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament commence souvent avec l'époque où ils étaient des esclaves en Égypte. Par son intervention miraculeuse, Dieu a appelé et a fait sortir son peuple de la condition d'esclavage, comme nous avons chanté, ce qui est célébré dans la fête de la Pâque. Dieu a établi la Pâque comme un indicateur de ce qu'il allait faire lorsqu'il a envoyé le Seigneur Jésus comme agneau sacrificiel afin d'apporter la liberté à tous ceux qui ont confiance en lui. Lisons la promesse de Dieu à Israël dans Exode chapitre 6, versets 6 à 8. Dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est une promesse de la liberté. Pourtant, tragiquement, au verset 9, nous voyons que les Israélites n'ont pas écouté. À cause de leur découragement et de leur servitude cruelle, ils étaient dans un état de désespoir. Et en regardant autour d'eux, aujourd'hui, nous pouvons voir ce même désespoir chez ceux qui vivent dans la peur de l'oppression, la peur de la pauvreté, la peur de la solitude, la peur de la maladie. Rappelez-vous, par exemple, à quel point les gens avaient peur de Covid. Les gens sont tellement concentrés sur toutes les mauvaises choses qu'ils ne peuvent pas entendre les paroles du Seigneur qui offrent cette liberté à laquelle nous aspirons tous. Les Israélites en Égypte ont été incapables de se libérer. Nous non plus ne sommes pas capables de nous libérer. Eux, ils ne pouvaient pas imaginer ce que ce serait de vivre en tant que peuple libre de Dieu. Nous avons perdu cette liberté de vivre en communion avec Dieu pour vivre selon ses normes parfaites. Plusieurs fois, je prends la résolution d'être une meilleure personne. Je trouve toujours que j'échoue encore et encore. Et pourtant, Dieu amène gracieusement ceux qui étaient esclaves dans la liberté et leur donne une nouvelle terre et les cadeaux dans lesquels exercer et jouir de cette liberté. Dans la Deutéronome, nous lisons « Tu vivras dans les villes que tu n'as pas bâties. Tu jouiras de bonnes choses que tu n'as pas fournies. La terre promise comme le salut était un don gracieux de Dieu à son peuple. Ils ne l'ont pas mérité. C'était un don gracieux. Partout où vous regardez dans l'Ancien Testament, que ce soit dans les livres d'histoire, les livres de prophétie, les livres de poésie, comme les psaumes, nous voyons Dieu rappelant à son peuple comment il les a sauvés. Et après leur entrée dans la terre promise, même quand ils ont continué à désobéir, il a continué à les secourir encore et encore. Pourquoi l'Ancien Testament parle-t-il autant de ce thème de sauvetage du salut? C'est pour vous orienter vers le grand salut que Dieu préparait par le Seigneur Jésus. Tout comme les esclaves israélites, nous ne sommes pas capables de nous libérer. Et nous ne pouvons pas gagner cette liberté dont nous avons besoin. Cette liberté d'être le peuple de Dieu, le peuple que Dieu voulait que nous soyons. La liberté de vivre la vie qu'il voulait que nous vivions. Simplement parce que le gouvernement ou l'État ou la Constitution nous donne le droit à sa version de la liberté. Comme Israël, nous ne pouvons devenir libres que par la grâce de Dieu. Romains chapitre 6 encore, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous voici encore au chapitre 6 de Romains, où nous avons commencé. Le choix que nous avons fait par la grâce de Dieu est décrit comme un changement de l'esclavage au péché à la liberté, qui est également décrit comme étant un esclave de la justice. Est-ce que c'est à dire que Dieu aussi cherche des esclaves, des gens pour l'asservir, les gens qui peuvent faire pour lui ce qu'ont dû faire les prêtres des autres religions pour leur Dieu? Apporter chaque jour de la nourriture à leur Dieu, l'offrir, vivre une vie misérable dans la servitude. Est-ce que nous donnons aux amis non-chrétiens l'idée que la vie chrétienne est restrictive ou étroite? Comme sommes-nous des gens qui sont connus pour les choses que nous ne sommes pas autorisés à faire? Si c'est le cas, nos amis non-chrétiens penseront qu'ils sont plus libres que nous. Mais ce n'est pas la vérité. Dieu nous appelle à une vie de libération. En vérité, le Dieu qui a créé l'univers n'a pas besoin de nous, de nos efforts faibles. En Psaume 50, verset 10, nous lisons « Car tous les animaux des forêts sont à moi. » Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Qui connaît tous les oiseaux de montagne et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, tu ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui cherche à nous priver la liberté, mais de nous donner la vraie liberté. La liberté de réfléchir sa nature et de vivre en communion avec lui. En tant que chrétiens, nous sommes maintenant capables, grâce à la force de Dieu et à la grâce de Dieu, de faire de bons choix, de bonnes choses pour de bonnes raisons. Il y a une règle qui est souvent citée, mais qui ne vient pas de la Bible. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Alors, ne les volez pas si vous ne voulez pas qu'ils vous volent. C'est évidemment une règle qui fonctionne dans votre intérêt. Nous pouvons le retourner en disant « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. » Cette règle fonctionne également dans votre intérêt. Il s'agit de savoir comment obtenir quelque chose qui est à votre avantage. Lorsque vous serez libre en tant que chrétien, vous travaillerez selon une règle différente. 1 Jean chapitre 4, verset 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons la liberté d'aimer les autres parce que Christ nous a aimés et nous a sauvés. Ce changement ne se produit pas parce que nous sommes libérés, comme Brive-la-Gaillarde s'est libéré. Ce changement se produit parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Jésus nous appelle à imiter en donnant comme il a donné, afin que d'autres reçoivent comme nous avons reçu. C'est la reconstitution de la liberté originelle que Dieu voulait que chacun de nous ait. La liberté de réfléchir l'image de Dieu lui-même. La liberté de marcher avec Dieu, sans peur, avec la liberté et sans culpabilité, en portant l'autorité de Dieu pour exercer l'autorité dans le monde qu'il a créé. C'est la vraie liberté que Dieu nous offre. Sortez d'ici en sachant que nous sommes le peuple libre du Dieu puissant. Amen.